Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com ou alors sur le DAB+ de la radio numérique. Aujourd'hui, le tout terrain à l'honneur avec notre spécialiste, naturellement, vous le connaissez, c'est Guy Pilarczyk. Guy, bonjour.
Bonjour la biche, et puis je sens surtout que je souhaite une bonne année.
Et une bonne année parce que c'est la première pour toi.
À tous les possesseurs de tout terrain, à tous les sports tout terrain d'ailleurs. Donc cette émission sera consacrée avec Gilou pour mes motocross et nous avons un invité, Dominique Boulonnet, qui est dirigeant de l'UFOLEP Nord-Pas-de-Calais.
Picardie
maintenant.
Ah oui.
Je suis monté en grade.
Ah d'accord. Et puis nous avons aussi la... aux commandes de
notre ami Laurent. On va partir en Belgique, Guy.
Oui, en Belgique avec Thierry Materne qui va organiser sur le circuit de Namur à cross à l'ancienne. Donc pour les 75 ans de ce circuit mondialement connu.
Alors si on revient sur Gilou, hein, attention, c'est mes motocross, hein, c'est un site internet où on peut retrouver, c'est une bible un peu.
Ah la bible, hein,
la bible du cross depuis, les pilotes et les résultats depuis des dizaines d'années.
Depuis la création.
Depuis la création du championnat.
Ouais, 47 ou 48, enfin c'est un travail vraiment de fourmi hein, de Gilou. Hein. Alors Gilou va nous parler, il y a un nouveau championnat du monde de supercross. Bizarrement, ce Supercross se déroulait qu'aux USA et il s'appelait Championnat du Monde. Mais là, il y a une session entre l'organisateur et puis la FIM. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va organiser. Et puis, on va parler aussi d'un pilote qui est parti en retraite comme Antonio Caroli. Il a été 9 fois champion du monde et ça fait 20 ans qu'il roule et là il a pris sa retraite bien méritée. Et ensuite en dernier, on va avoir une petite information sur le Dakar et puis sur le Touquet. Et nous allons avoir Luc qui va nous parler de la sortie du fameux et incomparable calendrier Kikaku.
Voilà, oui, parce que c'est l'époque des calendriers, on est en début d'année.
Avec les pompiers, les...
Que va-t-on faire cette année, si on peut le faire?
Oui.
Si les événements ne sont pas annulés.
Mais enfin, c'est un calendrier qui est bien rempli.
Voilà, très bien.
Voilà.
Et bien on salue notre ami technicien Laurent pour notre première plage musicale.
Musicale.
We'll be right back. come for good luck. And that you'll see. Got $700.
Ça, c'est l'email à joie de Gilou, Guy.
Ah ouais,
c'est... Maintenant, c'est son générique.
C'est ouais, son hymne. Ouais.
C'est son hymne.
Ouais, ouais, c'est...
Désormais, ce sera Joël Robert.
Voilà.
Ouais. Voilà. C'est super chouette.
Bonjour, Gilou.
Bonjour, Gilou.
Bonjour à tous. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tous les éditeurs. Je vous souhaite à tous, bien sûr, une bonne année. Et puis, une belle saison. Et puis, j'espère qu'on aura une belle année de passion et avec pas trop de contrariété. Hein, avec des organisations un peu partout, des manifestations un peu partout, et puis j'espère que ça va bien se passer en 2022. Ça va un petit peu mieux quand même, j'ai l'impression que l'année dernière, qui était déjà un petit peu mieux que l'année d'avant, donc j'espère que tout va bien se passer cette année, et voilà, qu'on va partir sur de bonnes bases. Et puis on a déjà vu le calendrier 2022. Hein.
Ouais. Oh, aussi, ouais. Et alors Gilou, t'as un surnom maintenant, Don Quichotte, c'est quoi ça?
Ah bah ça c'est en fait c'est Pascal Dicker qui m'avait donné ce surnom parce que il trouve que j'ai de bonnes des bons sujets pour essayer de mettre en avant, mais de là à ce que ça bouge, c'est difficile.
C'est difficile, oui, en effet.
J'essaye d'amener mon grain de sel, j'essaye de contacter des responsables et tout pour qu'ils fassent attention au public, parce que pour moi, il y a deux éléments qui font qu'une épreuve, alors je parle plutôt du motocross évidemment, il y a deux éléments qui sont essentiels, c'est d'un côté les sportifs, c'est-à-dire les pilotes, les motos, les circuits, et de l'autre côté, le public. Et s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de manifestation possible, et s'il n'y a pas de motard, il n'y a pas de manifestation possible non plus. Mais de mettre un grillage entre les deux, qui fait un grillage qui fait 2 mètres de haut et qui entoure tout le circuit, là, on se trouve confronté à une sécurité absolue de... bien trop annoncé, si tu veux. C'est trop dans l'excessif, parce que c'est fait là, d'une façon unilatérale, on entoure tout, et puis on fait avec. Sauf que nous, public, si tu veux faire des photos, t'es blousé, parce qu'il y a du grillage partout. Si tu veux faire encourager un peu les pilotes au bord de piste, pour ceux qui connaissent bien le motocross, c'est quand même... On aime bien encourager nos pilotes en bord de piste. Alors, je sais bien qu'il peut y avoir un ou deux endroits où c'est plus dangereux, donc simplement à cet endroit-là, on écarte un peu le public, ou alors on met pas de public du tout à cet endroit-là. Mais de là, tout entouré partout, non, faut revenir à quelque chose de plus raisonnable, parce que j'ai pas mal de mes amis, hein, de contact, qui ne vont plus au motocross parce qu'ils trouvent que c'est plus le motocross qu'ils ont connu. Alors c'est vrai que c'est des gens qui ont peut-être 60 ans et plus, donc qui ont connu le grand motocross des années 70-80, mais quand même, aujourd'hui, il faut un petit peu faire attention à tout ça, parce que je pense que c'est plus une protection de l'organisation et une protection de celui que, du championnat ou de la fédération, que du public, parce qu'ils ont toujours peur que si une moto part dans le public, blesse ou voire tue, c'est déjà arrivé, hein, il y a déjà eu malheureusement des accidents dramatiques. Mais enfin, ils ont peur de se faire attaquer en justice, d'aller en prison, enfin de tout ça. Mais je veux dire, il y a peut-être d'autres solutions quand même, parce que après, faut voir, c'est toujours pareil, entre le risque et puis la sécurité. Il y a peut-être une solution intermédiaire qui serait moins radicale, quoi. Donc j'essaie de me battre pour ça, et bon, on verra bien.
En effet, ouais. Gilou, on va parler d'un autre pays où il n'y a pas de grillage. C'est le Supercross US.
Ouais. Enfin, là, il y a... Ah si, il y a quand même des petits grillages, mais justement, tiens, toi, ils mettent des filets à des endroits très... à des endroits dangereux. Ils mettent des filets qui font bien plus de 2 mètres de haut, qui font peut-être 4 mètres de haut, mais c'est très réduit, et parce que, bon, évidemment, le public est en tribune, donc il n'y a pas de danger.
Ouais.
Voilà. Donc, ouais, Supercross US, tu veux parler ?
Oui, alors, le Supercross US, c'est un championnat du monde, et alors, bizarrement, ce championnat se déroule qu'aux États-Unis. Enfin, ouais, il y a eu quand même des... Si, au Canada, en Espagne, enfin une ou deux fois, hein, mais...
C'est vieux déjà.
Ouais, c'est vieux.
Et
ouais.
En fait, non, on peut dire que le championnat Supercross, AMA, c'est, même avec le label FIM qu'il y avait jusqu'à l'année dernière, c'était essentiellement un championnat américain. Il y a eu une scission entre l'AMA et puis la FIM sur ce championnat de Supercross.
Et c'est pas une question de finance, parce que bon, ils doivent verser de l'argent à la FIM.
De toute façon, il devait y avoir, c'était contractuel, donc il devait y avoir certainement des arrangements. Dès l'instant qu'ils sont plus, ils travaillent plus ensemble, c'est que il y a un désaccord. On peut dire ce qu'on veut, même si il y a eu des communiqués assez, comment dirais-je, favorables à la relation qu'ils avaient, etc. Mais enfin bon, s'ils arrêtent, c'est qu'il y a un désaccord. Et du coup, je pense que la FIM est perdante sur ce dossier-là. Je ne pense pas qu'elle était vraiment gagnante lorsqu'elle a mis le label mondial avec le Supercross US. Parce que on n'est pas dupe. Hein. Ça se déroule qu'aux États-Unis. C'est vraiment le Supercross, c'est une catégorie et puis une spécialité qui est née aux États-Unis. Avec il y a 90% du plateau de pilotes américains. C'est vraiment très très centralisé sur les États-Unis. Maintenant, le fait qu'il y ait une scission entre la FIM et puis le promoteur, hein, c'est Field, le promoteur du Supercross US. Prouve que ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils voulaient avoir de pérenniser le Supercross d'une façon mondiale et éventuellement quelques épreuves hors États-Unis parce qu'évidemment c'est un coût et puis voilà, c'est un petit peu tombé comme ça dans l'eau, je dirais. Parce que je crois même que le titre mondial était uniquement pour la catégorie 450. Hein, c'est-à-dire la catégorie 250 n'avait pas le label mondial.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais si, par exemple, le Supercross va se dérouler un peu partout, enfin dans le monde, parce qu'il y aura une épreuve en Australie, je crois, hein, la première, enfin, éventuellement.
Alors là, ce qui s'est passé, c'est que la FIM a lancé une opération, un appel à promoteurs pour organiser un championnat du monde de Supercross. Et il y a un promoteur qui a proposé une solution, qui a proposé un dossier. Alors c'est une société australienne, c'est SX Global. Et puis c'est des gens qui gèrent déjà le championnat de Supercross en Australie. Et qui ont proposé donc un projet qui a été accepté, qui apparemment on va avoir des nouvelles dans les prochaines semaines de leur projet. Bon, c'est des gens compétents. Hein, c'est le président du Supercross de la société australienne, c'est Tony Cochrane. Donc ils sont vraiment spécialisés dans le Supercross, ils connaissent bien la chose. Mais là où c'est surprenant, c'est la création de ce championnat de Supercross mondial. Parce que quelle date, quel endroit, et puis surtout, quel pilote.
Ben oui, parce que pour les pilotes américains, ils vont pas se déplacer. Ils préfèrent rester bien au chaud chez eux avec des dollars.
Bien au chaud, c'est pas toujours le cas.
Ouais, non, mais je veux dire avec les dollars, quoi.
Bah disons que eux ils sont employés par les teams et les teams s'il y a pas de philanthropie hein. Les gars ils sont là pour gagner de l'argent et donc éviter de trop en dépenser et puis essayer d'en gagner le maximum. Donc s'ils doivent faire une tournée apparemment en Océanie ou un peu partout dans le monde, ça coûte plus cher que d'aller sur des différents états à l'intérieur des États-Unis. On en est là aujourd'hui et tout le monde est un petit peu dubitatif de cette annonce. Ouais, parce que c'est pas les pilotes de Grand Prix qui iront faire le championnat de Supercross. Alors déjà la saison de Grand Prix c'est 20 Grand Prix hein, en gros qui démarre on va dire du mois de mars jusqu'au mois de septembre.
Ouais.
Donc il reste plus beaucoup et puis il faut que les pilotes se reposent. Ils peuvent pas enchaîner quand même toutes les compétitions. Et puis il y a des objectifs. Remporter un championnat du monde, un grand prix, c'est pas du tout pareil que de faire du supercross. Aux États-Unis, ils ont leurs objectifs, le championnat américain, 17 courses, et derrière, il y a un championnat de motocross américain. C'est-à-dire que le championnat de supercross aux États-Unis démarre en janvier. Ouais, on a eu la première course la semaine dernière. Il démarre là. Il va se terminer au mois d'avril, et derrière, hop, c'est le championnat de motocross. Il se termine au mois de mai, c'est fin avril, début mai, le supercross US. Et 15 jours après, c'est le championnat de motocross US qui démarre, et pour 12 épreuves, qui nous emmène jusqu'à fin août. Donc là, c'est pareil, à fin août, les gars, déjà, on a du mal à en recruter, en sélectionner 3 pour faire le motocross des nations qui se déroule en général 15 jours après, à peu près. Donc, tous les meilleurs, ils n'ont qu'une envie, une fois que les deux championnats sont terminés, c'est de se reposer, parce que... Il y a 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, mais après, hop, ils reprennent tout de suite le testing pour l'année suivante. Donc, ils vont pas aller se lancer sur un championnat, aller courir, je sais pas où, à Sydney, en Nouvelle-Zélande, voilà, parce que l'Océanie, c'est, on va dire, en gros, hein, c'est surtout la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
Bon. Et en plus, si le Covid sévit, en plus...
c'est encore un autre sujet, parce que là, on est dans l'inconnu total. C'est encore plus... franchement, au niveau Covid, les informations qu'on peut entendre ici ou là, c'est quand même... la pandémie va quand même un peu... peut-être pas maîtrisée, mais moins dangereuse, donc il y a peut-être des évolutions et on sera peut-être moins embêté. D'ailleurs, c'était très surprenant parce que la première épreuve du championnat de Supercross aux États-Unis, c'était en stade, et c'était plein. Et des gens sans masque, apparemment, on voyait un petit peu dans le public, donc je sais pas comment ils sont là-bas, comment ils vivent, mais bon, on n'avait pas l'impression qu'il y avait eu une pandémie un jour, hein, c'est curieux. Et à côté de ça, et en plus, leur championnat, il est tout à fait, cette année, tout à fait conforme à la normalité. C'est-à-dire que les épreuves se déroulent normalement, c'est-à-dire que dans différentes villes. Et puis d'ailleurs, le motocross américain fera pareil. Donc c'est vraiment, ils sont venus à une saison normale aux États-Unis. Donc on espère que nous, avec le championnat du monde, ça sera pareil, on va dire en Europe, hein, pour simplifier. Mais on espère ça, ce qui n'est pas encore le cas, parce que comme on le sait, les différents pays mettent des règles qui changent quasiment d'une semaine à l'autre. Alors ça doit être très compliqué pour le promoteur du championnat du monde, David Longo, ça doit être compliqué. Hein.
Oui, en effet. Ouais. On te laisse encore 30 secondes, et puis on va te reprendre après. On va parler de Antonio Cairoli et du championnat US.
Ouais.
Et enfin, ce que tu as sous la main, on prend.
Ah bah, de toute façon, écoute, moi, tu sais, tu me connais.
Ouais.
Non, le championnat américain, bah, on va en parler, puis de Antonio Cairoli, oui, de sa retraite. Mais ce qu'on peut faire pour terminer, c'est simplement dire que en France, le motocross va redémarrer avec l'épreuve de la Capelle, hein, qui va se dérouler le 6 février, donc c'est bientôt. Et puis en Italie, c'est encore plus tôt, parce qu'il va y avoir les internationaux d'Italie qui vont démarrer le 30 janvier et puis le 6 février. Hein. Bon, le 6 février, ça sera en concurrence avec la Capelle, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, en multipliant les épreuves un peu partout, forcément, avec un championnat du monde de motocross qui prend une amplitude dans le calendrier importante, les épreuves des différents championnats sont obligées de se caler par rapport à ce mondial. Et forcément, après, il y a de la concurrence entre les épreuves nationales de Italie, France, Hollande, Allemagne. C'est compliqué. C'est compliqué d'établir un calendrier maintenant.
C'est sûr.
Voilà. Et en plus, les fédérations, je suis pas sûr qu'elles travaillent. Enfin, j'en suis pas sûr, j'en suis convaincu qu'elles travaillent pas main dans la main au niveau de l'Europe. Alors, c'est compliqué, quoi, de faire des épreuves d'une façon sereine, parce qu'il y a toujours une concurrence d'un côté ou de l'autre, et pour avoir les pilotes, c'est un petit peu la guéguerre entre les fédérations et les teams.
Ok, Gilou, on te reprend dans quelques minutes.
Eh bien, à tout de suite, les gars.
À tout de suite, ouais. Musique.
Ok. Oh.
Bon Guy, on part en Belgique retrouver Thierry Materne.
En effet, on va traverser la frontière. On va aller en Belgique, à Namur exactement, où Thierry Materne organise sur l'esplanade, enfin sur le circuit de Namur, un cross internation, mais à l'ancienne. Bonjour Thierry.
Bonjour Guy.
Oui, alors, un petit historique, hein, c'est de 1947 à 2007, sur le circuit tracé sur les hauteurs de Namur, se sont déroulés les championnats d'Europe, 500, les championnats du monde et les motocross des nations. Et en 2007, ça s'est arrêté, étant donné que bon, le circuit n'était plus aux normes de sécurité. Et vous avez aussi un bourgmestre qui est vert et qui veut plus, de motocross sur les hauteurs de Namur, étant donné que ce circuit passe à côté des jardins, des maisons bourgeoises éventuellement, voilà.
Oui, donc en fait, c'est précisément à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça s'est arrêté en 2007. Mais en fait, les raisons pour lesquelles ça s'est arrêté, c'est qu'il faut savoir qu'on est à la citadelle de Namur et c'est un site classé. Et alors, le permis était arrivé à expiration. Et le promoteur de l'époque, je ne sais plus qui c'était, mais il a oublié de renouveler le permis.
Ah, d'accord.
Passé dans les délais. Donc à ce moment-là, les autorités communales, la mairie et les autorités ont sauté sur l'occasion et ça s'est arrêté là. Donc tu vois, c'est vraiment la précision, c'est ça quoi. Il y a eu un peu d'erreur administrative au niveau des demandes de permis quoi. Maintenant, je te rejoins, c'est que les normes de sécurité, les transmissions télévision et tout ça, télévisuel, c'était compliqué sur la citadelle. Donc, je ne sais pas si ça aurait continué. Mais enfin, il y avait moyen de trouver un circuit un petit peu différent et rester sur un site extraordinaire qu'on appelait le Monaco du motocross.
Le Monaco, en effet, oui. C'était l'appellation de ce circuit. Alors, tu avais organisé en 2013, hein, sur l'esplanade, une épreuve souvenir, disons, avec des machines anciennes, et qui avait pris... Il y avait quand même du monde, hein, à cette première.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2013, moi, je supportais mal, comme beaucoup de personnes, de plus rien voir à la citadelle. Et donc, je me suis lancé dans l'organisation d'un, comme tu dis, un mémorial ou une petite épreuve uniquement sur l'esplanade parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Et donc, on a tracé un petit circuit et ça a été un succès immédiat, bien évidemment. Et donc, après, j'ai essayé d'avoir un tout petit peu plus d'espace autre que l'esplanade, mais là, ça a été un refus total.
Ouais, ouais.
Et donc, je me suis tourné vers un terrain dont je suis propriétaire. Pas très loin de la citadelle, hein. Herpon, c'est vraiment une bourgade à quelques kilomètres de la citadelle. Et donc j'ai organisé ça, j'ai fait un circuit et donc c'est là que ça se passe, quoi, à Herpon.
Tu as organisé deux fois en 2016 et 2018, c'est bien ça, hein.
Tout à fait, Guy, tout à fait. Et en 2020, on a pu annuler l'édition puisqu'on le fait tous les deux ans parce qu'il y avait le Covid, bien évidemment. Et puis voilà, maintenant on est en 2022, voilà, c'est parti. Je pense qu'avec le passe-passe-terre, etc., ben, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Et puis voilà, quoi, on est parti. Quoi.
Avec un petit retour là, sur le circuit de Namur. En 2001, ce fut la première victoire de la France au motocross des nations.
Oui.
Je me rappelle. Et avec Yves de Maria, Luigi Segui et David Villemain. Et aussi une manche gagnée par Jean-Jacques Bruno qui a fait un bras d'honneur à l'arrivée. Bon, oui. Je ne sais pas si ça se passerait comme ça actuellement.
Non. Je pense que Jean-Jacques, il a un peu fait ce bras d'honneur dans le cadre de... Ben voilà, il était sur le terrain belge et tu sais qu'il y a toujours un peu une compétition
ouais,
de la
ouais,
et je pense que c'était exacerbé au niveau du public. Et puis voilà, quoi. Donc, il a fait ce petit geste, ce célèbre geste sur l'esplanade là, à l'arrivée, quoi, quand
d'accord.
Il a gagné la France sur Suzuki. Quoi, hein,
voilà. Bon, on va redire, alors c'est, les dates, c'est le 30 et le 31 juillet. Est-ce que tu peux nous donner le programme complet de, cette, de ces deux jours?
Oui, tout à fait. Donc le dimanche, donc le 31 juillet, ben, c'est les courses habituelles de moto ancêtres, donc qui vont du départ jusqu'à 90. Quoi, les motos, elles sont limitées à 90.
L'année, oui.
Voilà, et alors, il faut pas... À l'international, il faut avoir moins de 35 ans. Et alors, j'ai une catégorie en plus qui est les moins de, il faut avoir plus de 35 ans pour faire l'international. Et une petite catégorie pour les jeunes de moins de 35 ans. Comme ça, ils peuvent également, on peut retrouver un peu l'engouement pour les motos anciennes au niveau des jeunes. Et donc, ça change. Mais alors, moi, j'ai désiré un peu m'ouvrir. Et le samedi, on va fêter dans le cadre des 70, je vais y arriver moi, dans le cadre des 75 ans de l'anniversaire de la création du Grand Prix à Namur, et puisque la première course était en 47, comme tu l'as rappelé, on a décidé de faire avec une association un mémorial sur la citadelle dédié au Grand Prix.
D'accord.
Et à l'événement qui s'appelle. Et donc, on va inaugurer cet espace mémorial qui se trouvera dans le restaurant Le Panorama, qui est bien connu, qui est sur toutes les photos des motos anciennes et des Grands Prix. C'est le restaurant qui se trouve sur l'esplanade de la Citadelle. Et donc, dans ce cadre-là, le samedi, on va certainement, c'est pas sûr encore à 100%, mais presque, nous pourrions partir en cortège depuis Erpan jusqu'à la Citadelle avec tous les participants à l'événement Namur les Jeunes. Quoi.
Ah, d'accord.
Alors, voilà, ça c'est le gros morceau du samedi et le dimanche, c'est le gros morceau de l'événement. Mais en parallèle à ça, moi j'ai désiré un peu m'ouvrir à l'avenir et je me suis ouvert un peu aux motos électriques donc, pour présenter les nouvelles machines qui arriveront dans les années. Et là, je démontre. Moto électrique, j'ai déjà trois marques qui sont confirmées pour faire une démonstration et ça se passera le samedi après-midi.
D'accord.
Et le samedi matin, alors moi j'ai pour une première dans l'événement, j'ai désiré ouvrir également au VTT électrique, quoi. Parce que je trouve que c'est des engins pas mal, quoi, qui rejoignent un peu la moto et voilà quoi, c'est sympa. Et sur le circuit, on va ouvrir au VTT électrique une petite course le matin. Voilà.
D'accord. Au niveau de l'épreuve de motocross, est-ce que tu as des vedettes belges ou étrangères?
Oui,
qui ont roulé sur le circuit, quoi.
Ouais, bien sûr, ça. On en a eu plusieurs qui sont venus depuis le départ de la création de notre événement. Que ce soit Gramnos, je ne sais plus moi, Herbert Smith qui est décédé maintenant.
Ouais.
Y en a plusieurs qui sont venus, je ne connais pas. Il y a Van der Smithson qui vient, il y a Roger Brelet qui vient, il y a toute une. Dans différentes catégories, il y en a plusieurs, je ne les connais pas tous malheureusement parce que on est. Là, à l'heure actuelle, il y a déjà 200 pilotes inscrits, tu vois, dis donc j'ai un peu de mal à retrouver tous
Et je me rappelle en 2013, lors de ta première organisation, le même jour, il y avait le Grand Prix de Belgique. C'était. Oui, voilà. Et je pensais qu'il y avait des pilotes que le samedi, ils auraient venu voir, mais il n'y a eu personne, je pense pas.
Non, parce que tu vois, Egui, c'est pas possible pour eux. Ils sont pris tout le week-end. C'est impossible pour eux de faire ce genre de. Bon, quoi. Déjà, j'avais eu André Malherbe qui était venu.
Oui, André, ouais.
Jean-Claude Laquier, André Malherbe était venu. Tu vois, moi, j'essaye au maximum de faire le plaisir, surtout aux pilotes. Après, s'il y a des vedettes qui veulent venir, l'événement prendra de l'ampleur. Et puis voilà, ça viendra, les gens viendront s'ils ont envie de venir. Quoi. Mais voilà,
d'accord.
Ça s'adresse aux amateurs et aux passionnés de la moto actuellement. Quoi. Maintenant, les anciennes vedettes, elles sont bien les bienvenues, bien évidemment. Hein. Jean-Claude Laquier, il est venu encore en 2018. Il y a des mécaniciens connus comme, je veux dire, mon équipe va y arriver, moi je ne me rappelle plus maintenant, l'ancien mécanicien d'André Malher, Jean-Marie Hacking.
Ah oui, oui.
Il y a Guillaume qui vient également de Belgique, tu vois, donc il y en a pas mal qui viennent, quoi, tu vois.
D'accord. Et il va y avoir aussi.
pension, quoi, en discrétion.
Il va y avoir aussi une exposition de motos ?
Oui, il y en a toujours, oui. Depuis le départ, je fais des expositions de motos, donc les gens viennent exposer des motos qu'ils ont rénovées, qui sont un peu exceptionnelles, et puis voilà, il y a toujours un espace dédié à cette exposition, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée, bien sûr ?
Oui, c'est 10 euros, quoi.
Oui, c'est donné, quoi.
Oui, et de même que par exemple, s'ils s'inscrivent avant l'événement, et qu'ils payent avant l'événement, c'est 40 euros, donc je veux dire, et ils ont une place gratuite pour eux-mêmes et pour un accompagnant, quoi.
Voilà.
On ne peut pas monter dans des prix de fou.
Ouais, c'est certain.
C'est démocratique, et c'est très familial, et puis voilà, les gens viennent... Ils rencontrent des anciens pilotes et des anciennes connaissances. C'est vraiment ça qui se passe, quoi. Tu vois, les gens, c'est une occasion de se revoir, quoi.
Voilà, exactement. Écoute, Thierry, on te remercie de nous avoir accordé quelques minutes sur ton épreuve. On aura l'occasion d'y revenir. Et alors, j'oublie pas oublier la date, 30 et 31 juillet 2022, à Herpen, qui se trouve au bas de...
C'est sur les hauteurs de Namur également. Quoi.
Ah oui, pour le samedi, oui, en effet.
La citadelle, elle était rive gauche de la Meuse, et moi, je suis rive droite, tu vois. Donc,
ah d'accord, t'es de la droite, alors, voilà.
Voilà.
On a compris. Thierry, allez. On te remercie.
Merci beaucoup, Guy, en tout cas, et merci à toute votre équipe, et à bientôt, tout le monde. Hein.
À bientôt, on te remercie. Salut.
Up. Standing over by the record machine was a drag queen looking like a drag king. Just looked and listened at that beautiful thing as she played the music that made the color girl sing. Transition was the ignition that left me in a chronic condition, and it set this wild man on the loose when I heard about sipping that gin and juice. Rolling down the street, smoking indo, sipping on gin and juice, laid back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking indo, sipping on gin and juice, laid back with my mind on my money. Sipping on gin and juice.
NYC, Jay Dudley, Daisy Lee Parsons, Tough Jeff Salen, Kelly Crystal, it's Papa Chevy, from the Bronx to Brooklyn, back home in Queens, to the Lower East Side.
Ah, le tout-terrain aujourd'hui est l'honneur avec notre spécialiste de la discipline, hein, Guy Pilarczyk. Guy, alors honneur aussi aujourd'hui à Dominique Boulonnais qui est ici avec nous dans les studios.
Qui est dirigeant UFOLEP voilà. Nord, Pas-de-Calais, Picardie.
Et je pense qu'il est même... alors il nous a amené son petit calendrier, hein, parce qu'effectivement c'est l'époque des calendriers, hein, janvier. Il est président hein, de Flandre Artois Picardie.
Voilà, je suis...
Dominique,
c'est bien vrai.
Je suis responsable de la commission sportive régionale, voilà. Ça s'appelle comme ça en UFOLEP, Flandre-Artois-Picardie, hein, Hauts-de-France, on va dire. Et je gère avec une douzaine de collègues, parce que je ne suis pas tout seul quand même, et c'est pas mal de boulot. On gère toute l'activité moto UFOLEP, hein, 95% de motocross, du trial et pas mal de formation également.
Mais il n'y avait pas de vitesse, cyclo, ça existait.
Alors, exact. Il y a encore 4 saisons, je pense, 4 ou 5 saisons, il y avait un club qui s'appelait Continental Vario,
ah, ouais, ouais.
Qui était basé un coup sur Lille, un coup sur Hasbrouck, et qui faisait des épreuves de mob vitesse, maximum 50 cm3, parce que la Fédération française n'accordait à l'UFOLEP que 50 cm3 maximum. Malheureusement, ça a périclité parce qu'ils n'étaient pas beaucoup de participants, enfin quand je dis pas beaucoup, 40-50 par week-end, et ça revenait très cher parce qu'ils avaient des locations de piste. Il fut un temps, enfin il y a déjà un petit moment, ils faisaient ça sur des parkings de grande surface ou des choses comme ça, ils se débrouillaient, donc ils avaient le circuit pour rien, mais maintenant c'est plus possible, ils vont sur des circuits de karting qui louent, et plus tous les à côté, les médecins, la Croix-Rouge, tout ça. Enfin, ça faisait des prix d'inscription exorbitants. Donc, c'est malheureusement mort de sa petite mort. Mais on a été en contact il y a une saison ou deux avec un gars qui voulait remettre un petit peu au goût du jour, quoi, tout en loisir pour le départ et peut-être reprendre la compétition par la suite.
Il y avait un circuit là, tout près de l'usine Renault là, d'Ouvrain, c'est ça?
Oui. Donc, Française de mécanique, voilà. Ils venaient 3-4 fois par an.
Et c'était un circuit de cartes, non ?
C'est un circuit de cartes, oui. Ouais. Après, ils s'expatriaient déjà. À l'époque, ils étaient encore Nord-Pas-de-Calais, mais ils s'expatriaient aussi bien en Normandie. Ils allaient du côté d'Abbeville. Il y avait aussi un circuit de karting également.
En effet, c'était des 50 cm3, mais maintenant, ça carburait. Hein, parce que bon, j'ai vu ça à Seclin, à Douvrin. J'étais étonné par leur vitesse.
Moi, je te dirais que moi aussi, à l'époque, j'étais allé voir les premières épreuves, ils existaient déjà, mais j'avais jamais été voir. Et ben ouais, les machines, elles sont préparées comme en Grand Prix, avec les pneus chauffés, les ci, les ça, tout.
Ah ouais.
Mais alors bon, c'était assez hétéroclite parce qu'ils ouvraient, bien sûr, pas dans les mêmes épreuves, mais ils avaient des scooters, ils avaient des machines à galets, puis ils avaient machines à vitesse, tout ça, mais jusqu'à 50 cm3, et en bout de ligne droite, ça allait très vite.
J'étais étonné par leur vitesse, parce que je dis, c'est quand même des moteurs bien gonflés, quoi. Dominique, tu vas nous parler du calendrier 2022 de l'UFOLEP Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Il y a combien d'épreuves
Donc, au total, cette année, on a réussi à prévoir 17 épreuves.
Ah oui, quand même.
Il y aura un trial qui démarre la saison, d'ailleurs, normalement prévu le 27 mars, sur Vingles. C'est traditionnel. Et puis, on a 14 motocross régionaux. L'épreuve d'Isberg, l'épreuve internationale nocturne d'Isberg. Et à Vingles, le club va essayer, pour la troisième fois consécutive, d'organiser le championnat d'Europe IMBA en sidecar cross et en féminine, qui serait une nouveauté puisque jamais aucune féminine n'ont roulé dans un championnat IMBA.
La troisième fois, tu dis ?
Oui, la troisième fois, parce que en 2019, annulé. En 2020, annulé. En 2020, annulé. C'était les 40 ans du motoclub des Étangs à Vingles. 2021, l'an passé, pareil, au mois d'avril, mai, la fédération, les pilotes, certains pays ne pouvaient pas sortir de chez eux, donc ils ont préféré annuler tout de suite. Donc on remet le couvert pour 2022 en espérant que ça se passe bien.
Et le sidecar cross prend bien sur le circuit il y avait quand même, c'est plus spectaculaire que du solo, mais ça, la sauce, elle a bien pris quand même.
Oui, donc le club avait organisé pour la première fois en 2017, et beaucoup de spectateurs, des gens enchantés de voir. Alors, pour les habitués, je dirais, contents de voir du sidecar cross, parce qu'il n'y en a pas souvent. Et pour les novices, les spectateurs du coin qui viennent qu'une seule fois... impressionné par le
spectacle,
par la technique des pilotes et des passagers, les fameux singes là. Alors nous, en plus, on a des vagues sur notre circuit, enfin ils ont quillé ça.
Et surtout, il y avait un équipage féminin.
Oui, il y avait un équipage féminin qui s'était blessé à l'entraînement et qui est revenu. Oui.
Donc pour la saison 2021, est-ce qu'il y a eu des défections suite au Covid?
Oui, alors début 2021, tout était bloqué. Les épreuves qui étaient prévues de mars, de fin mars à fin mai, les gens ont soit reporté, soit annulé pour certains. Sur 14 épreuves, on a eu 5 ou 6 annulations. Mais on a fait un championnat sur 9 épreuves de début juin à mi-octobre. Même on est allé jusqu'à mi-octobre, les épreuves se sont décalées.
D'accord. Au niveau du nombre de participants, en moyenne sur les circuits, combien de...
Alors, en 2021, baisse importante quand même, pratiquement 20% de fréquentation en moins. Alors les pilotes ont eu certainement peur que trop de épreuves soient annulées. Après, il y avait le pass sanitaire, puisque on s'est conformé aux directives de la loi française et surtout des préfectures. Alors les préfectures, on a un dossier d'homologation à faire pour les manifestations. Et la première chose qu'ils envoyaient, c'était un dossier de 6 pages pour toutes les contraintes sanitaires, qui sont normales. Les clubs se sont bien adaptés, en particulier sur les contrôles des passes, tout ça. Mais je pense que dans notre population de pilotes, certains pilotes n'étaient pas vaccinés complètement et ne pouvaient pas participer, malheureusement, puisque c'était participants, accompagnateurs et spectateurs. Tout le monde devait être contrôlé.
Et est-ce que vous avez eu des contrôles éventuellement sur les épreuves ?
Alors, des contrôles directs, non, mais les services de police ou la gendarmerie passent pratiquement sur chaque manifestation.
Ah d'accord.
Oui.
D'accord.
Ils viennent contrôler déjà que le dossier en préfecture soit respecté.
Respecté, ouais.
En particulier les zones réservées au public, parce que tout à l'heure j'entendais le confrère de mes motocross là, ces contraintes malheureusement. Alors. Moi, je n'ai pas vu sur des terrains, tout au moins en UFOLEP, mais même en Fédération française. C'est peut-être quand il y a beaucoup de public, c'est vrai que les organisateurs se protègent en mettant des barrières de chantier, des choses comme ça, à plus de 2 mètres de haut. Nous, les normes, c'est qu'on a le droit à des mains courantes, type mains courantes de football, c'est-à-dire ça ne gêne pas du tout pour prendre des photos, par exemple. Mais il y a aussi des retraits par rapport à la piste qui sont obligatoires, qui sont... Tel tremplin, il faut être 4 mètres derrière. Tel tremplin dans tel virage, on n'a pas le droit de 6 mètres. Il y a des normes, ce qu'on appelle le règlement technique de sécurité, qu'on est obligé d'appliquer de toute façon, sinon on ne peut pas organiser.
Ouais, c'est un cahier des charges.
C'est un cahier des charges de sécurité.
Qui est normal, parce que
qui est normal, bien sûr, oui. C'est-à-dire qu'il y a dû probablement avoir des accidents sérieux.
Voilà. D'accord. On va te reprendre pour parler des formations.
Oui.
On va reprendre notre ami Gilou, que tu connais maintenant.
Voilà.
Par voix herzienne. on passe un peu de musique et puis on revient à Gilou et après on revient sur toi, Dominique.
À tout à l'heure.
De tout terrain à l'honneur aujourd'hui avec Guy, notre spécialiste de la discipline. Et on retrouve Gilou.
En deux mots et quatre temps.
On va essayer de le faire en deux mots.
Ouais. Mais pas en 222 comme Antonio Caroli, qui a pris sa retraite. Ce numéro ne reviendra plus, je crois. Hein.
Non, ils vont le copyright. Bloquer, ils vont le garder pour en hommage à ce qu'a fait Caroli, quoi. C'est toute sa carrière. Bon, faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a marqué son époque. Il y en a eu d'autres avant. Ben, tout à l'heure, on parlait du jingle avec Joël Robert. Bon, c'était aussi une autre époque, mais il y a quelques pilotes comme ça qui marquent vraiment l'histoire du motocross. Il y a eu Joël Robert, il y a eu Stefan Everts. Aujourd'hui, on a Antonio Caroli qui vient de prendre sa retraite. Et je pense que le relais avec Geoffrey Herlings va se faire parce que là, on a un nouveau pilote, un grand champion Geoffrey Herlings, qui à mon avis va, sauf blessure évidemment, va faire quelque chose dans les prochaines saisons, prochaines années, qui fera qu'il va marquer l'histoire aussi ce garçon. Donc Caroli, oui, il a pris sa retraite en 2021. 94 victoires en Grand Prix, hein, ça parle un petit peu. 9 titres de champion du monde. Ça parle un petit peu.
Et, bizarrement, tu vois, Antonio Caroli, la même année, enfin l'année dernière, il y a Valentino Rossi qui a pris sa retraite aussi.
Oui.
Et il y avait 9 titres aussi.
Oui.
Alors, sauf, parce que je vais défendre le tout-terrain, Antonio Caroli, pour sa dernière année, il avait gagné des Grands Prix. Hein. Il a gagné un Grand Prix, je crois. Hein.
Il a gagné deux Grands Prix. Deux Grands Prix et quatre manches.
Oui, et à un moment, il était, je crois, troisième du provisoire, ou deuxième.
Tout à fait. Mais Caroli était donc en course pour le titre de champion du monde. Honnêtement et franchement, je ne pense pas qu'il aurait pu rivaliser. On va pas refaire l'histoire, hein, ça s'est passé. Il n'aurait pas pu rivaliser. Je pense qu'il pouvait prétendre à une quatrième place au final, au championnat du monde. Herlings. Romain Fèvre et puis Tim Gagère étaient supérieurs à la régulière, étaient supérieurs à Caroli. Mais c'est normal, ces gars-là sont en pleine possession, je dirais en pleine forme, aussi bien de l'âge que de leur motivation. Ils sont en pleine, eux, de carrière. Ils sont encore là pour quelques années. Alors que Caroli était en fin de carrière, c'était quasiment annoncé presque en début d'année. Bon, la rumeur était là. Et puis on savait qu'il allait arrêter. Mais Caroli, il avait 36 ans. Faut se souvenir que Caroli a gagné son premier Grand Prix en 2004.
Ouais, à Namur, justement.
J'ai oublié, je ne sais plus. Mais en 2004, il a gagné encore en 2021 deux Grands Prix. C'est-à-dire que le gars, entre 2004 et 2021, 17 ans de compétition. Et il était toujours au top niveau. Il a fini le mondial, il était cette année, en 2021, sixième, ça doit être ça. Et puis, et encore, parce qu'il s'est blessé, il était blessé
ouais,
une partie
ouais,
de la
ouais.
saison.
Il était blessé
en proie à une blessure récurrente, et puis en plus, il s'était blessé avec suite à...
En Italie, d'ailleurs.
Ouais. Donc, voilà, mais c'est vraiment un, c'est vraiment une personnalité. En plus, c'est un garçon qui est resté... très ouvert, attachant avec le public. C'est ça. Dès qu'il sortait de son camping-car, de son stand, il traversait le paddock, mais il faisait quoi, 2 mètres, il était tout de suite arrêté pour avoir pour une photo, un autographe, etc. Et toujours souriant, toujours ouvert. Moi, je l'ai rencontré à différentes entreprises. Un jour, je lui ai demandé une photo, et sans aucun souci. C'est-à-dire, c'est même pas attends 5 minutes, je reviens. Non, c'est hop, on fait la photo, le sourire, tout sympa, et voilà. C'est vraiment un pilote attachant. Il avait peut-être un pilotage plus agressif. Hein, il savait être agressif aussi sur la piste. Mais bon, c'est vraiment, il a marqué l'histoire du motocross. Et
Les courses avec Keroli ou sans Keroli, ça sera maintenant, ça sera plus tout à fait pareil.
Plus pareil.
Il y aura d'autres pilotes qui vont arriver. Hein, je vous dis, il y a Erlings qui en plus Erlings maintenant prend de l'ampleur sur l'image, et je pense qu'il fait du bien au motocross ce garçon. On a vu le passage d'ailleurs sur la dernière épreuve. Il s'est mis à genoux devant Keroli. Je trouvais que c'était un respect, et puis c'était vraiment une belle image.
Je pense qu'il y a quelques années, il l'aurait pas fait, ça.
Oui, parce que c'est un garçon, mais c'est pareil, c'est un compétiteur, Erlings. C'est un garçon qui relève les défis. Il nous l'a montré encore donc en 2021, en allant au Motocross des Nations, par exemple. Parce que beaucoup de pilotes ont renoncé en disant « Oh non, j'y vais pas parce que je fais le championnat du monde, je veux pas me blesser et tout ». Erlings est en course pour le Mondial, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à Mantova, en Italie, pour faire le Motocross des Nations. Il a gagné en titre individuel cette course. Son équipe a fini deuxième. Après, on connaît un petit peu le déroulé de cette épreuve, mais comme par hasard, Keroli y était aussi, et Erlings était aussi. Donc c'est des gars qui... Erlings, Keroli a, je ne sais plus, il y a au moins une dizaine de sélections au Motocross des Nations.
Oui, ouais, qui n'avait jamais gagné, ouais.
Ouais, ouais. Et donc là, il a gagné avec son équipe pour la dernière année. Bon, bah, c'est l'histoire est belle. Et
tu, disais voilà. Tu disais qu'Antonio, c'était un pilote attachant.
Oui.
Comme son épouse, elle est attachante aussi à Keroli.
Ah ben, alors là, écoute, je ne sais pas, c'est possible, oui, je ne connais pas son...
T'as vu des photos, moi.
Ah oui, mais ouais. elle était toujours avec lui. Ouais.
Qui est hollandaise, d'ailleurs.
Oui, mais c'est... voilà, ils ont tous... ils ont leur vie privée.
Et en plus, il y a un fils, je crois. Hein, c'est un
oui,
fils,
hein. oui. Ben,
peut-être qu'on le verra dans quelques années.
Peut-être, on a le clan le clan familial chez les Evers, par exemple. On avait Harry Evers qui a fait Evers, qui a fait Liam Evers. Ça peut, mais enfin, c'est pas parce que le père ou le grand-père a été un grand champion que fils ou le petit-fils va devenir un champion. Il faut que le pilote, il faut que le garçon soit motivé, qu'il ait le talent, qu'il ait la volonté, parce que nous, on voit la finalité, hein. On voit le pilote qui monte sur le podium, qui gagne des courses et tout ça, mais derrière, il y a un sacré boulot, et il y en a pas beaucoup qui réussissent comme l'a fait, par exemple, Antonio Keroli.
Tu disais qu'il avait 17 ans, parce que moi j'avais lu, ça fait 20 ans qu'il roulait.
Ah ben oui, mais moi 17 ans c'était par rapport à sa première victoire en Grand Prix.
Ah oui, d'accord. Parce
qu'en 2004.
Il faisait des championnats italiens, d'Europe, je ne sais pas.
Oui. Non, mais c'est un garçon qui vraiment, il a marqué l'histoire du motocross, et vraiment il a donné une belle image au motocross. Hein. C'est ça qui est important. Il était toujours présent sur le motocross des nations. Je crois qu'il a refusé une fois la sélection, et sinon il a toujours été présent, sauf blessure et des choses comme ça. Mais sinon il était présent.
Il y a quelque chose un peu bizarre, Antonio, quand il disputait des grands prix, il était plus rapide en circuit vers la fin, dans les derniers tours.
Parce que c'est un pilote qui... En motocross, tu sais, il y a...
C'est parce qu'il prenait des spaghettis, non ?
Non. Je sais qu'il y en a qui parlent de dopage, choses comme ça, mais alors, premièrement, tant que il n'y a rien de prouvé, moi, je fais confiance au pilote. Après, dès l'instant qu'il y a un pilote qui fait de belles performances et qui dure longtemps, on va dire, c'est parce qu'il est dopé. Oui, écoute, il a des contrôles antidopage, après, t'as qu'à prouver quelque chose, amener un dossier, voilà. S'il y a rien, il y a rien. Voilà. Antonio Keroli, il s'entraîne, c'est un passionné. Pour courir et pour faire encore un championnat du monde en 2021, alors que c'est son année de retraite, et se battre pour gagner des courses.
Les places d'honneur, ouais.
Ouais, voilà, donc quand il monte sur la moto, il sait très bien qu'il peut se blesser dès le premier virage, de prendre un risque, alors que financièrement, je pense qu'il a ce qu'il faut pour bien vivre jusqu'à la fin de ses jours. Donc maintenant, ce gars-là, c'est un passionné. Et même, il a déclaré que pour 2022, alors qu'il arrête la compétition officielle sur les championnats, il est possible qu'on le revoie sur quelques courses, voire sur le motocross des nations. Il avait évoqué cela dans une conférence de presse, qu'il pourrait faire le motocross des nations aux États-Unis, que cette année, ça sera aux États-Unis. Faire partie du team italien, parce qu'ils ont une belle équipe. Il y a une relève en Italie, il y a une belle équipe, et puis Antonio Keroli peut très bien bien scorer deux top 10 s'il s'entraîne et qu'il fait quelques courses, hein, peut-être qu'il ira aux États-Unis faire les deux, trois dernières courses du motocross aux États-Unis pour se préparer pour le motocross des nations, et voilà. Et ça serait encore une belle histoire. Donc il fera certainement quelques courses, mais voilà, la page Keroly maintenant quasiment tournée.
Éventuellement, il pourrait être manager aussi chez KTM.
Chez KTM.
Il restera toujours dans le milieu.
Il y a déjà une belle structure chez KTM. Je ne sais pas, après, c'est une volonté. Je ne sais pas ce qu'il souhaite faire. Peut-être qu'il voudra conseiller ou aider les jeunes pilotes. Tout dépend de ce qu'il voudra faire dans l'avenir. Ça reste encore un petit peu le mystère. Je pense que quand on a fait des compétitions comme ça toute sa vie, avec malgré tout des régimes drastiques, aussi bien sur l'hygiène de vie, et puis les efforts physiques, les entraînements et tout. Et je crois que d'ailleurs c'est ce qu'il disait, il arrêtait non pas parce qu'il en avait marre de courir en Grand Prix, mais c'était plutôt le quotidien, c'est-à-dire s'entraîner, repartir tous les jours, monter sur la moto et faire des tours à l'entraînement. Ça y est, c'est terminé, et puis il faut un jour que ça s'arrête de toute façon. Donc
Mais Antonio,
et puis, il part au top niveau.
Il y avait un beau style hein, quand même hein.
Ah, c'était un pilote qui était excellent lorsqu'il était vraiment au haut de sa forme. Je me souviens des courses où il arrivait à finir les courses, il restait derrière les pilotes en troisième ou quatrième position à 10 minutes de la fin, et puis là après il engrangeait la vitesse.
Ah, il mettait la sauce, ouais.
Et c'était là qu'il faisait l'effort pour arriver à doubler les pilotes hein. Mmh. Et c'est toujours sur le physique en motocross hein, sur la fin de manche, qu'à 10 minutes de la fin que la course se lance vraiment, parce que il y a le départ, ça c'est une chose, ils essayent lorsque les pilotes sont groupés, ils essayent de doubler, mais tout le monde va un peu à la même vitesse. Après, au milieu de course, les places sont un petit peu faites, et puis il y a le deuxième et le final qui est les 10 minutes de la fin où les pilotes engrangent là le physique et ils accélèrent, et c'est là qu'ils peuvent faire des différences, doubler ceux qui les précèdent ou faire le trou avec ceux qui les suivent.
D'accord.
C'est vraiment le motocross, c'est physique hein. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que le motocross, c'est le pilote, si on fait le couple pilote-moto, c'est vraiment en motocross, je pense que le pilote a encore un pourcentage plus important que la moto. C'est-à-dire qu'un très bon pilote, même sur une mauvaise moto, fera de bons résultats. Encore que quand j'ai une mauvaise moto, je suis pas sûr qu'il y ait de mauvaise moto, mais bon, un très bon pilote sur n'importe quelle moto va faire un très bon résultat. Alors qu'un mauvais pilote, on peut lui donner une très bonne moto en motocross, il sera pratiquement comme il était avant. Hein. Quelques exceptions près, il y a beaucoup de pilotes, on les voit, elles changent d'une marque à une autre, mais en fait, c'est pas pour autant que d'un seul coup le gars il est devant ou derrière. C'est voilà. Il s'adapte à la nouvelle moto, mais toutes les motos se ressemblent un petit peu. Alors c'est vraiment en motocross le pilote qui fait la différence, peut-être plus qu'en vitesse où la moto est essentielle. Alors même s'ils se battent à coups de dixième ou de centième, il y a quand même la moto. Et comme voilà. En Formule 1 hein.
Gilou, on est presque à 13 minutes. Hein,
Ah là là, il y avait tellement de choses à dire.
Ah ouais, bah écoute, ça sera pour la prochaine.
Pour la prochaine fois, on parlera du Supercross.
Voilà, de toute façon, voilà, là, il sera bien lancé la fois prochaine.
On aura eu la deuxième compétition qui a lieu c'est ce week-end, hein, c'est cette nuit, le deuxième Supercross. Et puis, on a eu une belle entame. Sur la première épreuve avec des Français, Marvin Musquin,
quatrième,
qui a bien roulé. C'était plus difficile pour Dylan qui a fait des petites erreurs, Dylan Girondis.
Ouais, ouais.
Et puis en 250, Tomado qui s'est pas qualifié, mais bon, il a raté sa série qualificative. Il aurait pu se qualifier avec le repêchage. Mais il a chuté, c'est pas de sa faute d'ailleurs, il y a un pilote qui a chuté devant lui, il a pas pu l'éviter, et puis en repêchage après c'est fini, hein. C'est trop rapide, il a pas pu se qualifier, mais on va le revoir.
Ok, Gilou, ouais. On te reprendra le mois prochain,
oui.
Et fais attention aux ailes des moulins.
Oui, je vais faire attention, mais il n'y a pas de souci. Je suis assez serein et le combat continue.
Ouais, le combat continue. Allez, salut Gilou.
Allez les gars, bonne continuation. Ciao.
Merci.
Guy, retour avec Dominique Boulonnais, président hein, Moto Ufolep, Flandre, Artois, Picardie, qui est juste à côté de nous, là, hein, dans les studios.
Ouais. Dominique, il y a aussi un programme de formation des jeunes chez
oui,
vous.
Oui, tout à fait. Hein, L'Ufolep est une fédération formatrice. Hein. L'Ufolep est multisport, hein, c'est-à-dire qu'il y a près de 50 sports à l'Ufolep qui se pratiquent.
La moto, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps en Ufolep.
La fin des années 70.
Ouais, bah, je...
bah oui, l'Ufolep a été créé, je crois, en 1928 de mémoire. Mais bon, oui, c'est vrai que si on regarde ça, mais enfin, ça fait quand même une cinquantaine d'années, quoi. Mais...
Et une petite question, bah, bon, ils ont raflé quand même pas mal de pilotes par rapport à la FFM. Pourquoi c'était moins cher les licences, il y avait plus de circuits.
Oui, enfin bon, et puis à la limite, les pilotes veulent courir un peu partout. C'était une saine concurrence, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un prix aussi bien d'inscription qu'un prix d'adhésion, de licence, qui est un peu inférieur à la Fédération française. Oui.
D'accord. Alors pour revenir aux formations, donc...
Oui, donc d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que bon, on peut pas énumérer toutes nos dates de manifestation, mais on a deux supports internet pour aller voir. Il suffit de taper sur un moteur de recherche UFOLEP Moto de France et on tombe soit sur notre Facebook ou sur le site internet où là tout le calendrier est détaillé avec des tas d'infos, quoi. D'accord. Oui, donc une fédération formatrice. Alors, la belle surprise en 2021, malgré le Covid, c'est que on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus dans ce qu'on appelle l'école de conduite UFOLEP, les enfants de 6 à 11 ans qui ne peuvent pas rouler en compétition. Et on a eu une moyenne de 20 enfants par week-end présents, à tel point qu'à certains moments, on a dû faire deux vagues de départ lors des motocross. Et puis, pas mal de clubs également qui organisent des stages. Donc, on fait de la formation pour les jeunes. Les clubs organisent également des formations internes pour leurs pilotes, hein, des choses comme ça. Et puis, on forme des dirigeants. Donc, cette année, il y aura une formation pour les commissaires de piste. Donc, des nouveaux. Espérons des nouveaux. On va faire un petit appel sur nos sites, justement. Les anciens qui doivent se recycler tous les 5 ans. Les directeurs de course d'épreuves également. On est une dizaine de directeurs de course dans notre région, hein, ce qui est bien, un beau vivier de directeurs de course. Donc, pareil, ils ont un recyclage à faire tous les 4 ans. Et puis, on a remis en place depuis quelques années ce qu'on appelle un stage multi-activité. L'UFOLEP, donc, c'est plusieurs sports différents. Et là, ce sont pour les enfants. Ils viennent une semaine aux vacances de printemps, majoritairement de la moto, mais ils découvrent d'autres sports, le tir à l'arc, le foot, ou toutes sortes de trucs. Et ça plaît beaucoup parce que sur une semaine, d'abord, ils sont bien fatigués, ils dorment bien le soir. Ils font de la moto soit le matin, soit l'après-midi. Et puis le reste de la journée, ils font un autre sport. Ils ont déjà fait de l'esquitation, du rugby.
Ça, c'est le principe de l'UFOLEP. Hein,
c'est le principe de l'UFOLEP, voilà, la multi-activité. Hein, avec une licence UFOLEP, en payant le différentiel d'assurance qui peut exister, mais on peut faire plusieurs sports, c'est-à-dire tu es licencié UFOLEP pour la moto, tu as envie de te mettre un peu au basket, eh bien tu vas voir une association, tu n'as pas à repayer une nouvelle licence.
Ah oui, d'accord.
Tu fonctionnes avec ta licence, sauf que tu payes l'adhésion au club et éventuellement un surcoût assurantiel suivant le sport.
Mais les formations se déroulent comment, Cavaingre, non, ou...
Non. Là, ce sont des formations régionales. Donc, il y en a. Alors, il y a aussi une autre formation qui est importante. On va mettre en place cette année une formation là qui est au niveau national pour des animateurs écoles de conduite, justement, pour trouver des encadrants pour tous ces jeunes qui arrivent.
Des formateurs, quoi.
Des formateurs, voilà. Hein, ce sont des brevets fédéraux.
Mais qui connaissent bien sûr la moto.
Qui connaissent la moto, bien sûr. On le prend dans notre vivier de motards. Hein, et. Donc ça se passe, pour les trois stages principaux, ça se passe au CRAF de Liévin, hein, où il y a une structure pour faire des diaporamas, des choses comme ça. Et puis après, il y a des choses qui se passent dans les clubs également, suivant ce que l'on fait. Bon, après, maintenant, on verra les conditions. Hein, si on ne peut pas le faire en présentiel, on le fera en vidéoconférence. Hein, on s'est adapté à tout ça, on fait de la vidéoconférence. Moi, cet après-midi, j'ai une réunion en vidéoconférence parce que ce n'était pas possible de faire déplacer les gens dans une salle. On va être une quarantaine avec les mesures, quoi. Et d'ailleurs, certaines communes, même au jour d'aujourd'hui, ne louent plus les salles, ne prêtent plus les salles pour les réunions, quoi.
Ouais, en effet, ouais. D'autres informations sur...
Non, écoute, je suis bien content d'avoir pu parler de la formation parce que c'est très important. Gilou, tout à l'heure, parlait du motocross. Il dit qu'il faut deux choses, il faut des spectateurs et des pilotes. Moi, je dis toujours qu'il faut trois choses, même quelquefois quatre. Et il faut surtout des organisateurs. Parce que vous savez, le jour où il n'y aura plus d'organisateurs, où il n'y aura plus de commissaires sur une piste, des gens qui, de 7h du matin à 19h le soir, adressent un drapeau, qui pleuve, qui neige, qui vente, eh bien, quand ces gens-là ne seront plus là, hein, c'est chacun son tiers.
Ils deviennent d'horaires rares.
Un tiers pilote, un tiers spectateur, un tiers organisateur et le quatrième tiers, comme disait César quand il préparait le pastis, le quatrième tiers, c'est aussi des gens comme moi, des gens qui font lever la patte de tout ça. Je te disais tout à l'heure, on est une équipe de 12 et on met en place les règlements, on met en place la discipline, on met en place la formation, tout ça. Et s'il n'y a pas des gens qui s'investissent à un niveau un petit peu au-dessus, et ça ne fonctionne pas non plus.
D'accord, d'accord.
Tu voulais citer un peu les sites où on peut aller se renseigner ?
Oui, ben je l'ai dit tout à l'heure. On a fait paraître notre agenda et dessus, donc il y a sur un moteur de recherche, on tape UFOLEP Moto de France et on va tomber sur les deux sites. Hein, le Facebook qui marche pas mal et le site internet.
Ok. Donc le prochain rendez-vous, c'est le trial.
Voilà, en compétition. Alors, toutes les formations ont lieu avant les épreuves. C'est-à-dire ici, en février-mars, on va rentrer dans nos phases de formation. Et le premier rendez-vous, c'est le 27 mars, le trial à Vingles de moto ancienne.
Ah, qui était annulé l'année passée.
Alors, il a été annulé en 2021, oui, mais il a eu lieu en 2020. On l'a fait à la place de notre motocross.
Ah, parce oui.
Comme on avait prévu notre championnat d'Europe et qu'au dernier moment, on a su que ça ne pouvait pas avoir lieu, les trialistes ont dit, si on peut prendre la date, on le fait à cette époque-là. D'ailleurs, c'est la seule épreuve qui a été organisée en UFOLEP en 2020.
Et malheureusement, je n'avais pas eu cette information, donc...
Tu n'étais pas là.
Oui. Et Dominique n'a pas fait son travail.
Sa travail. Il y a des gens qui ont pleuré toute la journée. Il fallait voir ça, des spectateurs.
Voilà, oui.
Il n'est pas là. Il n'est pas là.
Ah, oui. Hein. Voilà, il est connu, lui. Ouais. Voilà. Très bien.
Ok, Dominique. Rendez-vous sur le circuit. Et puis.
Pas de problème.
L'année prochaine.
Merci d'avoir reçu du UFOLEP comme tous les ans, c'est vrai.
Comme tous les ans, la porte est grande ouverte. Et le
merci
micro
beaucoup.
Aussi. Salut Dominique.
Merci, au revoir.
As a friend, yeah.
Bon Guy, l'info tout terrain.
Alors la dernière info, c'est la sortie de.
Alors parle
ouais, dans de deux micro. Épreuves, voilà. De deux épreuves, de deux magazines. Le numéro 5 de Motocross MX2K, qui est au sommaire avec le rétro de la saison 2021, l'évolution du style de machine depuis la création, un comparatif de 7 motos de cross, l'interview de Maxime Renault, qui est notre champion du monde en MX2, et l'interview de Chiara Fontanesi, qui a été 6 fois championne du monde de motocross et récemment maman.
Ah ouais.
Voilà.
Ah oui.
Alors ce...
quoi, ah tu parlais d'une femme, je
non, n'empêche pas l'autre si tu veux.
Caria. Ouais. Alors ce bouquin vaut 7,80€ dans toutes les bonnes librairies. Et la sortie aussi de Motocross d'hier numéro 70 avec comme d'habitude bruit d'échappement, les brèves, les potins, les infos. Le portrait d'un pilote hollandais, le dentiste volant Jerry Wolsing, qui a fait les Grands Prix 500. La technique des carburateurs Mikuni aussi, c'est des carburateurs japonais. Et une curiosité, c'est une Royal Enfield de cross et une Ducati de cross. Voici pour les revues. Les magazines qui viennent de sortir.
Ah bah je te propose de parler d'une autre revue. Enfin, c'est un calendrier. Hein.
Un calendrier.
Oui, c'est une publication, on va dire.
Une publication. Un hein, calendrier 2022 des motoclubs. 22e édition.
22e édition, tout à fait. Ouais, ouais. Et il est sorti hier soir. La sortie officielle s'est faite hier soir au Trianon, au village moto de Seclin. Il y a pas mal de motoclubs hein, qui sont venus, qui ont répondu à l'appel. Bien entendu, les gestes sanitaires étaient respectés. Hein. On a contrôlé le pass, il y avait des masques, il y avait du gel hydro-pour-alcoolique. En fait, il y avait tout ce qu'il fallait. Quoi, hein. Et bien sûr... On n'a pas pu danser parce qu'on n'avait pas le droit.
Tu avais dit du gel alcoolique.
Hydro-alcoolique.
Ah. Hydro pour alcoolique. Ouais. Et, non, non, mais il y avait aussi du coca. Hein. Et voilà, donc on n'a pas dansé. On a passé une bonne soirée, c'était sympa. Donc beaucoup de motoclubs sont venus chercher leur calendar. On a fait une distribution, là c'est bien parti, c'est super bien. Beaucoup de gens l'ont trouvé sympa. C'est Fred qui nous a fait les dessins cette année. Et on le remercie, il a fait preuve de créativité, moi je trouve. Hein. Rien que la couve, moi j'adore. En deux mots, hein, pour les auditeurs au sujet de la couve, tu vois, et c'est symbolique, mais moi j'aime bien cette idée. On en avait parlé avant, bien entendu. Au premier plan, tu as une Kawa H2, tu vois, les nouvelles, là, les turbo-compressés, le truc de fou, tu vois, avec un petit jeune. Derrière, tu as un petit vieux avec sa moto ancienne. Et après, tu as le sidecar avec la famille, la maman, le bébé, etc. Et tout le monde fait le signe, oui. Le signe du motard.
Ah, le signe du motard, c'est le V1, hein, le V de la victoire.
Voilà, voilà.
On peut demander à Dominique qui vient découvrir le calendrier.
Mais il manquait une moto de cross. Dans
le mais il y en a une,
Guillaume. Il y en a dedans, il y en a dedans.
On peut demander la couve, si c'est, comment tu
que ça t'évoque.
Ouais. Ah bah oui, non, mais de toute façon, moi...
Tu trouves que ça représentait tout au moins le monde motard, il y a...
Le monde motard
encore
solidaire.
Quelques années, mais maintenant on ne sait pas si c'est encore vrai.
Mais si le monde motard solidaire.
Disons que pour les motos anciennes, bon, c'est surtout des passionnés, des collectionneurs souvent. Nous, par exemple, notre trial de motos anciennes, d'abord ça attire beaucoup de monde parce qu'il y a vraiment des bijoux hein, de collection. C'est dans ces motos de. Alors on dit des motos de trial, mais c'est des motos de route anciennes qui ont été préparées pour le trial. Hein. Et on voit que c'est un monde de passionnés quand même. Ouais, là, c'est...
Bon, alors donc là, c'est Couf qui essaie de réunir un peu...
Ouais, les trois...
Parce qu'il y a toutes les tendances moto, en fait.
Il y a les tendances hein, dans la moto. Il y a les gens comme toi qui font que du terrain. Hier, on a rencontré des gens qui font de la piste, de la vitesse.
Ouais.
Il y a des gens qui font la restauration. Il y a des gens qui ne roulent qu'en 50. Il y a des gens qui...
Qui roulent en custom.
En custom. C'est vraiment...
Et c'est un peu l'idée des illustrations de Fred, c'est de représenter tous ces mouvements, on va dire, culturels de la moto.
Ils roulent tous sur un deux roues, sur une.
Voilà. Et on partage tous la même passion.
Et quand on roule, qu'il pleut, qu'il fait froid, on a tous froid, que ce soit en cross, que ce soit en vitesse, que ce soit pour faire des balades.
Voilà. Donc c'est pour ça que les dessins ont été appréciés. Donc il faut quand même dire, hein, l'ami, que si on peut l'offrir gratuitement en 25 000 exemplaires à tous les motards. c'est parce qu'aussi il y a des annonceurs dedans hein, qui font l'effort depuis 22 ans de nous accompagner pour pouvoir le financer, c'est important. Et donc ce calendrier est en cours de distribution, il est d'abord distribué chez les annonceurs, c'est normal pour les remercier, mais il sera aussi ensuite distribué dans tous les lieux fréquentés par les motards des Hauts-de-France. Tu vois, Nord-Pas-de-Calais, mais aussi Aix-Picardie. Et on va publier sur notre site la liste des points relais où on peut retrouver ce calendrier. Tu vois, donc tu verras, ça fait 4 pages. Et en même temps, on mettra aussi le format numérique du calendrier où on aura corrigé les petites erreurs qu'on peut trouver.
Il y en a quelques-unes. Hein. Mais c'est pas... Faut qu'il parle dans le micro, Guy.
Dont celle que vient nous signaler effectivement.
Je précise quand même que page 14, hein, c'est pas du custom, c'est pas une Harley Davidson. Hein, c'est quoi? C'est une gaz-gaz.
Ouais.
Avec un.
Qui fait du freestyle.
Du freestyle. Hein, on sait pas comment il va s'en sortir, le gars, là, mais. Mais ça, c'est notre ami Fred qui dessine.
Ouais. Tu disais quoi, voilà.
Et page
c'est celle qui a gagné le Dakar, Gaz-Gaz.
Oui, effectivement, aujourd'hui, on le sait. Hein. Voilà. Et page 26, on a quoi?
La course sur glace.
Alors, course sur glace, c'est encore une discipline qui est vraiment un peu.
Marginalisée.
Enfin, alors, c'est marginalisé par les médias, parce qu'on n'en parle pas. Hein.
On n'en parle pas en France.
Ouais, voilà.
Et au mois de juillet, t'as quoi au mois de juillet?
Et au mois de juillet, on a quoi? On a.
Bécane d'enduro.
Oui, d'enduro.
De l'enduro, ouais.
Alors, c'est quoi ça?
Alors Dominique, faut pas dire que que la moto tout terrain a été oubliée dans le calendrier.
Ah ouais, elle est même surreprésentée.
Elle est même surreprésentée. On pourrait avoir des Harley Davidson, custom, des machins.
Voilà. Hein, bon, il y a pas que des dessins, il y a aussi des infos motoclub.
Il y a aussi des infos.
Ah bah ouais, quand même un petit peu.
Mais on peut dire que c'est le grand retour quand même de Fred.
Tout à fait, tout à fait, ouais, qui a été très apprécié, je te dis, par le public qu'on a pu croiser hier. Et donc, il y a des infos motoclubs, donc les motoclubs, les manifestations qu'ils organisent, même si pour eux, c'est compliqué cette année, hein, parce qu'avec encore cette histoire de Covid, c'est pas simple. Ceux qui n'ont pas beaucoup de trésorerie, qui doivent engager de l'argent pour une manifestation qui va peut-être pas se faire.
On comprend que
c'est embêtant. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un petit peu de place cette année pour faire des présentations de motoclubs. Donc, t'as par exemple le Caïman, t'as les vieux clous, t'as les amis de la moto, etc. Et donc, autant qu'on pourra, on a prévu chaque année de présenter de nouveaux motoclubs. On en connaît à peu près 50. Là, cette année, il doit y en avoir 5 ou 6. Et donc, chaque année, on renouvellera et on mettra des nouveaux motoclubs.
Très bien. Et ben voilà. Donc, voilà. Alors, si vous voulez avoir le calendrier, vous allez sur le site de Kikinkout et Tupal, kikinkout.fr.
Voilà.
Ouais, et puis vous là, il y a toute la liste de
diffusion.
On peut aussi le télécharger en format numérique.
Voilà. Et on a la liste où on peut le trouver.
Évidemment, en format numérique, si vous l'imprimez, ben vous êtes sur du papier ordinaire et.
Ah, il sera pas beau.
Ce sera pas pareil. Non, parce que là, c'est une.
Un 200 grammes. Une couverture en 200 grammes.
Un coucher brillant.
Un coucher brillant. Magnifique. Qui valorise le dessin.
Quand on le touche, on sent que voilà, c'est du beau papier, tout ça, voilà. Quoi.
Voilà, tout à fait.
Et donc, mais pour avoir la liste de diffusion, vous pouvez vous procurer donc ce calendrier 2022. Voilà, on passe. C'est terminé, Olek, pour le.
Ouais,
voilà.
Bon pour moi, merci.
Allez, on passe à un morceau de musique et après on se retrouve pour terminer cette émission.
Et pour moi, le mois prochain.
Voilà. It's not what you Voilà, l'émission se termine. On retrouve l'info tout terrain le 13 février, dimanche 13 février. Dominique, merci d'être venu ici dans les studios improvisés, enfin même des beaux studios, les nouveaux studios de Kikinkout et Toupal.
Oui, ben merci de m'avoir reçu, pas de problème.
C'est une découverte pour toi.
Oui, j'ai cherché un peu avant de trouver, mais bon.
Voilà, d'ailleurs, il est un petit peu pâle parce qu'il fait froid quand même.
Voilà, il fait un peu froid. Voilà. Merci, Luc, pour ce super calendrier.
Je t'en prie.
Du beau boulot.
Avec plaisir, mais c'est un travail d'équipe, il ne faut pas l'oublier.
Oui, bien sûr. Et merci, Laurent, pour cette technique au millimètre. Et on se retrouve dimanche prochain. Au revoir, passez un bon dimanche.
Salut.